Alors, la grande question, vraiment la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, que se passe-t-il après la mort?
C'est la question universelle, oui. Qu'on soit croyant, sceptique, peu importe en fait.
Et aujourd'hui, on ne va pas prétendre y répondre de manière définitive, évidemment. Mais on va explorer une vision. Une vision bien particulière, celle de personnes dont c'est un peu le métier de regarder de l'autre côté.
C'est ça.
On s'est plongé dans un article de blog qui est en fait la retranscription d'une discussion entre quatre médiums français assez connus. On a Sophie Vitali, Didier Santiago, Soraya Dulorme et Gwenaëlle Letourneur.
Ils étaient réunis pour une émission, Le Cercle Spirit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils confrontent leurs perceptions. Ce n'est pas un dogme, c'est un dialogue.
Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Leur vision de l'après-vie, la conscience, les signes, c'est un sujet vertigineux.
On y va.
Allons-y. Alors, le point de départ, l'idée qui soutient un peu tout le reste, c'est que pour eux, la mort, ce n'est pas la fin.
Non, c'est game over, c'est une transition.
C'est ça. Leur thèse, c'est que la conscience ne s'éteint pas comme une ampoule. Elle se détache du corps.
Elle se détache pour continuer son chemin sur ce qu'ils appellent un autre plan vibratoire.
Un plan vibratoire, c'est-à-dire...
Bah, il ne faut pas imaginer un lieu, tu vois. Ce n'est pas le paradis dans les nuages. C'est plus comme une fréquence radio. La conscience existerait toujours, mais sur une autre longueur d'onde.
Une longueur d'onde qui devient du coup imperceptible pour nos cinq sens.
Exactement. Elle ne disparaît pas. Elle change juste d'état.
D'accord, mais ce qui est frappant, c'est qu'ils décrivent ce passage comme un processus souvent doux, presque apaisant. Ils parlent d'un accompagnement bienveillant.
Oui.
Et ça, je dois dire, ça heurte un peu l'idée qu'on se fait d'une mort violente, d'un accident ou d'une maladie très douloureuse.
C'est une excellente question, et justement, ils l'abordent. Pour eux, il faut vraiment distinguer la fin du corps physique, qui peut être brutale, douloureuse, ça c'est un fait,
Oui.
de la transition de la conscience elle-même. Et là, Didier Santiago, l'un des intervenants, dit quelque chose de crucial. C'est l'état émotionnel et spirituel de la personne au moment du départ qui compte plus que tout.
Ah, d'accord.
Une personne qui a cultivé une certaine paix intérieure, même au milieu de la souffrance, ne vivrait pas le passage comme quelqu'un de submergé par la peur ou les regrets.
Donc, la manière dont on a vécu pèserait plus lourd que les circonstances physiques de la mort.
C'est ça l'idée.
C'est une idée forte. Et ça mène à leur deuxième point, qui est que il n'y a pas de scénario unique.
C'est le point sur lequel ils insistent tous. Chaque expérience de la mort serait aussi unique qu'une empreinte digitale.
Et pourquoi? Quels sont les facteurs qui jouent?
Alors, on a parlé de l'état émotionnel. Soraya Dulorme, elle, ajoute la dimension des croyances. L'au-delà perçu par un chrétien fervent ne serait pas le même que celui d'un bouddhiste ou d'un athée qui n'a aucun cadre préconçu.
Nos croyances agiraient comme des filtres, en quelque sorte.
Voilà, une sorte de réalité subjective qui se prolonge.
C'est vertigineux.
Et Gwenaël Letourneur, lui, ajoute un troisième facteur, ce qu'il appelle la maturité spirituelle de l'âme.
C'est-à-dire...
Une âme ancienne qui aurait beaucoup appris traverserait le passage plus facilement qu'une âme plus jeune, plus attachée au matériel.
Donc la diversité des témoignages n'est pas une contradiction pour eux.
Au contraire, c'est la preuve que chaque parcours est profondément individuel.
D'accord. Donc si chaque chemin est unique, est-ce qu'ils arrivent quand même à identifier des balises?
Des étapes communes.
Oui, et c'est là que leur expérience collective est intéressante. Ils dégagent des tendances. Pas des règles.
Des phases qui reviennent souvent.
C'est ça.
Ils en identifient cinq principales. La première, c'est le détachement progressif du corps.
La fameuse expérience de sortie du corps dont on entend parfois parler.
C'est un peu ça, oui. Le moment où la conscience commence à flotter au-dessus de la scène, avec une lucidité parfois étonnante.
Et ensuite?
La deuxième étape, ce serait la prise de conscience du décès. Le moment où l'âme comprend, ça y est, j'ai quitté mon corps.
D'accord.
Puis vient une phase cruciale pour eux, l'accompagnement spirituel.
Le comité d'accueil.
C'est l'image, oui. Ils décrivent très souvent la présence de guides ou de proches déjà décédés qui viennent pour aider à la transition.
Et la quatrième phase?
C'est la révision du parcours de vie.
Ah, le fameux film de la vie qui défile devant les yeux. Je me permets d'être un peu l'avocate du diable, mais ça sonne très, très cliché, non? Très cinématographique.
C'est plus subtil que ça. D'après leur description, il ne s'agit pas tant de revoir des images que de ressentir l'impact émotionnel de ses actions.
Ah oui.
C'est moins un film qu'un bilan vibratoire, une prise de conscience profonde de l'amour donné, des peines causées.
D'accord, c'est plus profond qu'un simple visionnage.
Beaucoup plus. Et ce qui est frappant, c'est que ça fait écho à des concepts très psychologiques, comme la revue de vie chez les personnes en fin de vie.
C'est vrai.
C'est un bilan final, en quelque sorte. Et enfin, la cinquième étape, l'intégration dans ce fameux nouveau plan de conscience.
Là où le vrai voyage commence, pour eux.
Voilà.
C'est un cadre assez complet, mais si on suit cette idée, la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont perdu quelqu'un est évidente. Est-ce que le contact est encore possible? Est-ce qu'il y a un pont?
L'article aborde ce point très concrètement. Et on est loin des fantômes qui traversent les murs.
J'imagine.
Il parle de manifestations beaucoup plus fines. D'abord, les rêves.
Les rêves.
Pas n'importe quel rêve. Des rêves décrits comme hyper réalistes, d'une clarté incroyable, où le défunt délivre un message très clair, souvent pour rassurer.
C'est quelque chose que beaucoup de gens rapportent, en effet.
Oui. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les présences subtiles.
Ce n'est pas une vision, c'est une sensation.
Exactement. Le sentiment très net que la personne est là, dans la pièce. Une présence souvent chaleureuse, protectrice.
Et après, il y a les signes plus physiques.
Oui, et les phénomènes physiques légers. Une ampoule qui clignote pile au moment où l'on pense à la personne. Un appareil qui s'allume tout seul. Ou une odeur très caractéristique.
Le parfum de la personne, par exemple.
Le parfum, l'odeur de son tabac, qui apparaît de nulle part.
Le problème avec ça, c'est que ça peut très facilement être vu comme une coïncidence. Une ampoule, ça grille.
Bien sûr. Et c'est là que Sophie Vitali apporte une nuance qui est, je trouve, cruciale sur les synchronicités.
C'est-à-dire ?
Elle explique qu'un événement isolé, ben, c'est souvent juste un événement isolé. Mais une synchronicité, pour eux, c'est une coïncidence qui se répète de manière significative. Tomber sur la chanson préférée du défunt, une fois, c'est le hasard.
D'accord.
L'entendre à la radio, puis dans un magasin, puis chanter dans la rue le tout le même jour.
C'est là que ça commence à prendre un autre sens pour la personne qui le vit.
C'est ça. C'est la répétition et le contexte qui créent le sens.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils insistent eux-mêmes sur la prudence.
Ah oui, au contraire. C'est un point fondamental. Ils appellent tous au plus grand discernement.
Leur règle d'or, c'est...
C'est toujours chercher et éliminer toutes les explications rationnelles possibles avant d'envisager notre origine.
Ce qui pose une question difficile. Où est-ce qu'on trace la ligne ?
Ils n'ont pas de réponse toute faite. Ils suggèrent que la réponse est intérieure. C'est le ressenti profond, la paix que le signe apporte, qui serait le meilleur indicateur.
Bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que la science a à dire là-dessus ? Parce que d'un point de vue rationnel, tout ça, ça reste de l'ordre de la croyance. Ce n'est pas mesurable.
Et ils en sont parfaitement conscients. Gwenaëlle Le Tourneur le rappelle avec beaucoup d'honnêteté. Tout ce qu'ils décrivent est, par nature, non mesurable en laboratoire.
On ne peut pas mettre une âme sous un microscope.
C'est ça. Cependant, l'article mentionne un dialogue possible avec la science.
Ah oui.
Notamment via l'étude des expériences de mort imminente, les EMI.
Oui, des gens cliniquement morts qui sont réanimés et qui racontent des choses très similaires.
Très similaires, ouais. Le tunnel, la lumière, la revue de vie, des milliers de témoignages à travers le monde. Alors, la science étudie ça sans conclusion définitive. Pour certains neurologues, ce sont des hallucinations du cerveau en manque d'oxygène.
L'explication purement matérialiste.
Voilà. Mais pour d'autres chercheurs, la cohérence de ces récits à travers les cultures et les âges pose une vraie question. Ça ne prouve rien, mais ça ouvre une brèche. Ça montre qu'il y a un phénomène à expliquer.
Et par rapport aux grandes religions, comment leur vision se situe ?
C'est intéressant parce qu'elle semble piocher un peu partout. On retrouve le fil rouge de presque toutes les grandes spiritualités. L'idée d'une transformation, pas d'une fin.
Que ce soit la résurrection, la réincarnation...
Ou l'évolution de l'esprit dans le spiritisme. Le postulat de base est le même. La conscience survit au corps.
Eux, ils en proposent une version plus moderne, moins dogmatique.
Une sorte de spiritualité à la carte, très centrée sur l'expérience individuelle.
Tout ça nous amène à une question très concrète, en fait. Est-ce qu'on peut se préparer à sa propre mort ? Et si oui, comment ? Ce n'est pas une question morbide, mais...
Sur la manière de vivre pour mieux partir. C'est exactement comme ça qu'ils posent le problème. Et pour eux, la meilleure préparation à la mort, c'est une vie bien vécue.
Ce n'est pas faire des rituels ou des cours.
Non, c'est vivre avec conscience au quotidien. La clé, ce serait de cultiver une stabilité intérieure pour ne pas arriver au seuil de la mort avec un énorme bagage de regrets, de colère, de peur.
Et concrètement, vivre avec conscience, ça veut dire quoi pour eux ?
Ils donnent des pistes très pratiques. La première, résoudre ses conflits. Ne pas laisser de non-dit, de rancœur. Partir le cœur léger.
Logique.
Didier Santiago, lui, insiste sur la cohérence. Être aligné, comme il dit. Que ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait soient en harmonie.
D'accord.
Soraya Delorme parle de pratiquer la compassion envers les autres et envers soi-même. apprendre à se pardonner. Et Gwenaël Le Tourneur revient au classique « Connais-toi toi-même », comprendre ses propres mécanismes, ses peurs.
En fait, ce sont des principes de sagesse de vie universelle. On dirait plus un guide pour bien vivre qu'un manuel pour bien mourir.
Mais pour eux, c'est la même chose. C'est tout à fait ça. Ces pratiques ne sont pas une assurance tout risque, mais elles visent à cultiver une paix intérieure. Et c'est cette paix qui permettrait d'aborder la transition, non pas comme une fin terrifiante, mais
comme une nouvelle étape, avec sérénité et peut-être même avec curiosité.
C'est l'idée. La préparation n'est donc pas un acte final, mais le résultat d'un travail de toute une vie.
Si on essaie de résumer ce voyage, on retient donc cette idée centrale de la mort comme une transition de la conscience vers une autre fréquence.
Oui.
On retient aussi que cette expérience est profondément personnelle, modelée par notre vie, nos croyances.
C'est ça.
On a vu les signes potentiels, ces clins d'œil, à interpréter avec une extrême prudence.
Un discernement immense, oui.
Et finalement, l'idée que la meilleure préparation, c'est simplement de vivre pleinement et en paix avec soi-même.
C'est un excellent résumé. Et il faut vraiment insister sur l'humidité de leur démarche. À aucun moment, ils ne présentent ça comme une vérité absolue.
C'est une porte ouverte, pas un chemin tracé.
Absolument. L'article conclut en disant que leur but n'est pas de convaincre, mais d'ouvrir un espace de réflexion.
Ce qui est peut-être le plus honnête à faire sur un sujet pareil.
Tout à fait. Et pour finir, je voudrais reprendre une idée qui clôt leur discussion et qui m'a semblé très puissante. Finalement, leur conclusion n'est pas une réponse, mais une question. Ils se demandent, et si la conscience continuait simplement de chercher, d'interroger et d'évoluer? Si on suit cette idée, ça change tout. Ça voudrait dire que l'après-vie n'est peut-être pas une destination, pas un paradis figé ou un néant.
Mais la continuation du voyage lui-même.
Exactement. Une quête de sens qui, elle, ne s'arrête jamais.